13h42 minutes. Prochain sujet, on apprécierait lire vos commentaires. Sérieusement, c'est un sujet important. On veut vous lire au 25226. Je pense que tout le monde doit faire partie de cette discussion-là qui va être hyper, hyper importante, je pense, au cours des prochains mois et au cours des prochaines années. Mais juste avant, Alex, tu me fais remarquer que la police d'Ottawa, c'est notre collègue Fabrice de Pierrebeau qui a partagé ça aussi, la police d'Ottawa vient de tweeter, hey, écoute, attachez votre tuque, là. Nous demandons, nous incitons les manifestants à ne pas venir à Ottawa et rentrer chez eux. Ça fait combien de fois qu'ils disent ça? Là?
C'est vraiment ça le tweet, là, Jérôme, c'est vous niaise pas, là, c'est 12 mots.
Oui.
En français pas en anglais.
Ça me fait penser un peu à Mme Freeland ce matin qui dit « Nous vous demandons de quitter les lieux. » Oui, c'est parce que là, ça fait 3-4 fois au moins là, qu'on leur dit. Là. Puis il n'y a rien, toujours rien qui se passe, mais on surveille ça, bien sûr, avec beaucoup d'attention, la situation à Ottawa. Je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose, peut-être pas cet après-midi, mais la présence policière, elle est très, très présente. Joe, quel va être l'enjeu numéro un de la prochaine campagne électorale? Moi, j'ai mon avis. Je ne sais pas si tu partages le mien. Toi, mettons, je te dis ça, enjeu numéro un.
Écoute, j'en vois deux, santé et inflation. Mais santé, inflation, assurément.
Bon point, inflation, tu as raison. Mais il y aura aussi la refonte du système de santé. Et le premier Legault parle lui-même de refondation du système de santé. Il semble y avoir une intention. Est-ce qu'on va être capable? C'est un chantier qui est énorme. Et notre prochain invité vient de publier une étude sur la question, sur la refonte du système de santé. C'est une étude très très exhaustive avec beaucoup de points importants. Mais c'est assez ambitieux, hein, parce que c'est l'Institut économique de Montréal, et notre invité est économiste à l'Institut économique de Montréal, et le communiqué commence en disant « Recette gagnante pour une refonte réussie du système de santé ». Gros objectif, et on va prendre le temps d'écouter les solutions avec notre invité qui s'appelle Maria Lilicha, économiste à l'Institut économique de Montréal. Madame Shaw, bonjour!
Oui, bonjour!
Assez ambitieux comme objectif. Par où commencer? Est-ce qu'il y a des exemples ailleurs dans le monde desquels on pourrait peut-être s'inspirer en commençant? Là?
Bien, c'est exactement ce qu'on a fait quand on s'est rendu compte que justement le système de santé y est dû pour une refonte. La CAQ l'a confirmé avec son annonce. Donc, on s'est tourné vers l'international. On s'est demandé où est-ce qu'ils ont réussi à offrir des soins à la population dans une façon plus rapide, avec une très bonne qualité, tout en ayant un coût similaire ou même inférieur à ceux de nos nombreux systèmes de santé au Canada. Puis on s'est rendu compte que le modèle suédois et celui au Royaume-Uni sont les exemples à suivre. La recette que j'ai présentée, c'est d'ailleurs les grandes lignes de ce qu'eux ont fait et ont réussi à faire pour libéraliser leur système de santé. Mais l'important dans tout ça, c'est qu'ils ont maintenu l'universalité de leur système, c'est-à-dire le principe d'égalité d'accès a été maintenu malgré la grande transformation qu'ils ont faite dans leur système.
Parce que ce que je constate à la lecture de votre communiqué de presse, Mme Shaw, c'est que dans le fond, vous dites, lorsqu'on est arrivé au Canada avec un système d'assurance maladie, un principe d'universalité, on n'était pas dans le champ. Sauf que contrairement à ces pays-là, comme la Suède, le Royaume-Uni, qui se sont adaptés avec le temps, qui ont fait face à de nouvelles réalités, à de nouvelles dynamiques, nous, on est restés statiques et on n'a rien fait.
Ben c'est exact. On est resté avec le même principe là, d'un système monopolistique géré par le gouvernement, financé par les contribuables. C'est encore le cas, par contre, en Suède et au Royaume-Uni. C'est très majoritairement financé par les contribuables encore. Mais ce qu'ils ont fait de différent, c'est qu'ils ont adopté, ou du moins, ils ont vraiment réalisé le potentiel que pouvait amener le secteur indépendant dans la provision de soins de santé. Donc, ils ont encouragé la participation des entrepreneurs dans la provision de soins à travers leurs hôpitaux, leurs cliniques, peu importe. Il y a plusieurs acteurs. Il n'y a pas juste les hôpitaux qui sont gérés par le gouvernement. Il y a des hôpitaux qui sont gérés par des entrepreneurs, justement, mais qui sont, encore une fois, financés par l'argent des contribuables. Donc, ils ont aussi passé à un autre mode de financement de leurs hôpitaux, puis l'assurance maladie duplicative, et j'en passe.
Ben c'est ça. C'est que là, au Québec, là, puis moi, je suis totalement d'accord avec vous, avec ce que vous dites, mais vous savez comment c'est au Québec. Hein? Là, il y en a qui vous entendent parler d'entrepreneurs, de privés, ou il y en a qui vont avoir peur. Mais comment leur expliquer, finalement, que l'université va être assurée? Moi, ce que ça me donne comme impression aussi, c'est que ça pourrait créer une espèce de concurrence entre les hôpitaux publics et les hôpitaux qui sont, qui ont été construits par des entrepreneurs ou opérés par des entrepreneurs. C'est un peu ça l'avantage, c'est d'avoir une concurrence entre les deux?
Ben, en fait, c'est pas seulement un avantage, mais c'est quasiment nécessaire. Il faut avoir la concurrence entre nos établissements parce qu'autrement, ils n'auront pas des stations à améliorer la qualité des services qu'ils offrent. Donc, ils n'auront pas intérêt vraiment à attirer le plus grand nombre de patients, mais c'est pas nécessairement de leur faute en ce moment parce que les hôpitaux sont financés selon un budget qui leur est accordé selon les activités des années précédentes. Donc, ça reflète même pas ce qu'ils ont eu à faire dans l'année même. Donc, si c'est pour ça qu'il y a une des étapes, d'ailleurs, c'est de changer le financement des hôpitaux à un qui reflète le volume de patients qu'ils traitent. Non seulement le volume, mais même la sévérité de leurs conditions et de leurs maladies. Ça peut même varier selon les coûts d'opération des hôpitaux. On ne sait pas si un hôpital, on sait qu'un hôpital à Montréal, ça va être plus cher en termes de loyer, si on veut, que si on le compare à un petit hôpital dans les cantons de l'Est. Mais c'est pour ça que la concurrence est nécessaire, parce que avec le financement par l'activité, ces hôpitaux-là vont savoir exactement combien d'argent ils vont recevoir selon l'acte qu'ils vont faire avec le patient. Et puis, en ayant ce montant-là en tête, ils vont pouvoir offrir une qualité meilleure aux patients, mais ils vont vouloir l'attirer parce que c'est leur source de revenus et non pas un coût. Et c'est le cas en ce moment. Le patient est un coût parce que leurs mains sont attachées. Ils ne peuvent pas attirer plus d'argent parce qu'ils sont fixés selon le volume de l'année passée.
Je me fais l'avocat du diable, là, parce que je dois vous avouer que j'ai un préjugé plutôt favorable là, envers une certaine mixité là, avec le privé, mais selon ce critère-là, c'est-à-dire de voir le patient comme étant davantage une source de revenus qu'une dépense, certains vont avancer. Je vous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un risque que justement le patient soit traité à la chaîne, qu'il y a des médecins qui prennent, par exemple, pas assez le temps avec un patient, parce que des fois, c'est en prenant suffisamment de temps avec une personne qu'on réussit à comprendre, à l'identifier un problème, etc. T'sais, est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque de voir des gens traités un peu à la chaîne, si on veut?
Mais en fait, faut pas oublier que les médecins puis tous les professionnels de la santé, en fait, dans les dernières années, on a vu, ils ont tout donné pour offrir vraiment le meilleur service possible à leurs patients malgré la situation unique qu'on vit. Mais je veux dire, oui, c'est une peur qui est rationnelle, mais en même temps, tous les médecins, les docteurs, les infirmières sont sujets à un même code de déontologie, dans le sens qu'ils doivent traiter leurs patients avec un certain respect. Puis si, justement, les établissements pour lesquels ils travaillent, donc si un hôpital est géré par un entrepreneur, ils vont avoir intérêt à gérer chaque patient d'une façon dont la qualité sera meilleure, parce que, encore une fois, ils veulent attirer ce patient-là, ils veulent qu'il retourne à cet établissement-là si jamais, par malheur, il y a une maladie qui arrive.
De façon réaliste, c'est parce que, tu sais, moi, je partage pas mal tout ce que vous dites, encore une fois, là, mais en même temps, je me dis, de façon réaliste, là, êtes-vous capable d'évaluer combien de temps ça prendrait mettre ça en place au Québec? Parce que là, il y a des syndicats qui vont se lamenter, qui vont chialer. Des autres professionnels qui vont mettre leur grain de sel là-dedans. La gauche qui vont dire ça n'a pas de bon sens, mettre des entrepreneurs là-dedans, c'est pas une marchandise. Tu sais, jusqu'à quel point c'est réaliste de penser qu'au Québec, on va peut-être avoir ça un jour, un système comme ça? Là?
Vous marquez un excellent point. Dans la recherche, la première étape, là, c'est adopter le dossier médical électronique. J'embarquais pas là-dedans parce que la première étape aurait quasiment été de faire en sorte que tous les acteurs qui vont avoir un mot à dire dans cette réforme-là ou dans cette transformation-là soient sur la même page. C'est la première étape vraiment à franchir. Il faut que tout le monde soit d'accord avec le fait que le système est dû pour une refonte, comme qu'ils disent à la CAQ, mais c'est effectivement un des plus grands obstacles. Puis pour ce qui en est du nombre de temps que ça peut prendre, je peux pas mettre un nombre d'années, mais je sais qu'en Suède et au Royaume-Uni, ça a pris du temps se rendre à où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais franchement, les bénéfices, ils en valent le coup. Puis on n'est pas nécessairement obligé d'y aller une étape par 10 ans. Là, on peut y aller d'une façon plus rigoureuse, mais aussi avec un peu de courage, là, on peut y arriver dans un temps qui est raisonnable, si on veut.
Le point de dépense, ce serait quoi? Parce que vous parlez de 6 éléments. Là, on en a déjà abordé quelques-uns. Bon, dossier médical électronique, l'assurance maladie duplicative, la façon de gérer le patient, etc. Parce que je vous pose la question, parce que Jérôme et moi, ça fait des semaines qu'on dit que le gouvernement doit nous faire la démonstration qu'il y a des changements concrets, tangibles, qui peuvent être apportés à court terme pour éviter qu'on soit aussi vulnérable devant une éventuelle autre vague de la pandémie. Est-ce qu'il y a un élément, par exemple, qu'on pourrait mettre en place rapidement et qui pourrait avoir des effets relativement rapidement?
Ben, vous voyez, quelque chose qu'on a vu de plus en plus là, avec la pandémie, puis c'est définitivement un pas dans la bonne direction, puis ça peut être une forme de solution à court terme, puis ils l'ont d'ailleurs adopté, là, comme je dis, c'est la hausse de la sous-traitance ou dans le nombre de contrats, si on veut, avec les cliniques dites privées là, pour des interventions chirurgicales dans les dernières années là, pour empêcher le délestage, on l'a vu. Donc, comme je dis, c'est un pas dans la bonne direction, puis ça va faire une sorte de désengorgement du système géré par le gouvernement, mais ça, c'est pas encore rendu à son plein potentiel à cause des réglementations qui sont présentement en place, et c'est d'ailleurs ces règles-là qu'on veut abolir avec la réforme, c'est d'ailleurs l'assurance maladie duplicative, puis aussi et surtout l'interdiction touchant la pratique mixte, parce que pour chacune des interventions qui ont été confiées là, à ces cliniques dites privées-là, elles ont été réalisées par un médecin participant à la RAMQ, donc ceux qui décident encore être rémunérés par le gouvernement, et c'est 100% leur choix, c'est entièrement correct. Mais en ce moment, avec la réglementation, les docteurs qui ne sont pas participants à la RAMQ, donc ceux qui décident de se faire rémunérer autrement, ne peuvent aucunement se faire financer par des fonds publics pour leurs activités. Puis il y en a des centaines de docteurs qui sont non participants à la RAMQ pour toutes sortes de raisons, mais ça reste que ce monde-là travaille dans des cliniques qui seraient capables de désengorger le système géré par le gouvernement, mais à cause de la réglementation en place, ils ne peuvent pas recevoir de contrats ni de patients provenant des hôpitaux. Donc, ces deux étapes-là, c'est sûr que ça va libérer beaucoup de ressources qui sont en ce moment pas rejoignables, étant donné les règles.
OK. On reçoit beaucoup de commentaires, Mme Shaw, sur notre messagerie texte. Il y en a que je trouve intéressant. Je ne sais pas si vous avez une réponse à ça, mais je pense que la personne qui nous écrit a raison. Elle dit le plus grand problème du système de santé, c'est pas nécessairement le travail des médecins, mais le manque d'infirmières et de préposés. Donc, fait référence à un manque de main-d'œuvre. Est-ce qu'un système, donc, je reviens à votre point de base, des systèmes comme en Suède et au Royaume-Uni, est-ce que ça pourrait régler ce problème-là aussi? Là?
Ben, c'est l'ingrédient numéro 4, si on veut, c'est d'augmenter vraiment l'effectif de perte de professionnels de santé par voie de, on dit, 3 réformes, mais il y a évidemment plusieurs façons de le faire, mais la Suède et le Royaume-Uni, ils ont fait face à la même problème là, quand ils ont commencé à transformer leur système de santé. Ils se sont dit, on va manquer de personnel, on va manquer de médecins, d'infirmières, peu importe, mais ils se sont pas paralysés à cette idée-là, ils sont allés plus loin, ils se sont dit, OK, on a un problème, et où la solution? Donc, ils se sont tournés vers les facultés de médecine à l'international. Plus d'une année, la Suède avait plus de médecins venant de l'international que des médecins venant de leur propre pays. C'est du jamais vu au Québec ni même au Canada. Donc, c'est pour ça une des premières réformes là, pour augmenter l'effectif de professionnels, c'est de s'ouvrir à l'aide qui veut venir de l'international. On a une entente avec la France, mais ça peut prendre jusqu'à 2 ans les faire venir, puis c'est même pas une garantie quand ils font leur demande. Donc, il y a aussi l'élimination des quotas d'admission. Ça s'applique surtout aux médecins. Je parle pas des infirmières avec ça, mais reste que au Québec, l'année passée, on en a refusé 9000 étudiants qui voulaient venir dans les facultés de médecine de la province. C'est sûr qu'on peut pas toutes les admettre. Là. C'est sûr, il y a des limites. Mm-hmm. Mais reste que parmi les 9000, je peux pas croire qu'il y en a une couple qui aurait pu quand même par leurs études. On en a admis seulement 966. C'est 1 par 10 000 habitants. Donc, oui, c'est effectivement un énorme obstacle, mais il ne faut pas se paralyser à cette idée-là. Il faut chercher plus loin.
Le 6e ingrédient de la recette que vous proposez, c'est de transférer la gestion de certains hôpitaux à des entrepreneurs, donc dans le privé, puis faire plus de place aux soins du secteur. Bon, vous dites, on garantirait l'universalité. Encore là, j'essaie de voir ce que, d'un côté, les gens pourraient apporter comme commentaire ou comme réserve. Certains vont dire les CHSLD privés non conventionnés. Il y en a un méchant paquet qui ont manqué la cible pendant la première vague, à un point tel que bien des gens veulent vraiment s'assurer de nationaliser la chose, de ramener tout ça sous le giron de l'État. Est-ce que vous voyez des mécanismes, par exemple, qu'on pourrait mettre en place pour, oui, d'une certaine façon, s'assurer que ces gens-là veulent être rentables, compétitifs, mais aussi s'assurer qu'ils offrent des services à la hauteur de ce qu'on souhaite dans le système?
Oui, mais c'est sûr qu'il y a des barèmes qu'on pourrait établir. Pour ce qui en est de la gestion de certains hôpitaux, ça se fait très bien, en fait, en Suède. C'est pas tous les hôpitaux. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à être gérés justement par des entreprises, soit à but lucratif ou non lucratif. Ça veut pas nécessairement dire qu'ils retirent un profit de leurs activités, mais ils restent en sorte qu'ils ces pays-là ont travaillé beaucoup, beaucoup avec les incitations. Donc, il faut que les compagnies qui souhaitent et qui sont assez courageuses pour vraiment gérer un hôpital et offrir des services de qualité parce que eux autres sont en compétition avec tous les autres hôpitaux publics et tous les autres hôpitaux qui sont aussi gérés par d'autres entreprises. Ils ont tout de même la responsabilité d'offrir un service de qualité parce qu'encore une fois, si c'est pas une belle expérience, ben les patients ils ont le choix d'aller ailleurs, ouais. Tout simplement. Donc, c'est une force quand même assez intéressante, mais c'est une force importante dans ce qu'il y en est de pour pas garantir, mais quand même espérer avoir de bonne qualité dans un établissement qui est financé par le public, mais géré par des entrepreneurs.
Tout ça est très intéressant. Puis dites-moi là, en terminant, quand vous faites des études comme ça, là, très très détaillées, les think tanks comme vous autres, l'Institut économique de Montréal, puis il y en a d'autres aussi, est-ce que les gouvernements écoutent ça un peu? Est-ce qu'ils vous consultent un peu quand il y a des décisions quand même cruciales à prendre comme ça?
On espère qu'ils prennent exemple, ouais. Mais non, on n'a pas de consultation avec eux. Ouais. Les idées viennent de nous, les chercheurs, les expériences qu'on voit à l'international. On se pose la question, est-ce que c'est possible d'appliquer ça ici? Puis, évidemment, tu sais, au Québec, on doit garder en tête qu'il y a quand même la loi canadienne sur la santé qui a un certain contrôle sur ce qu'on fait puisque le risque de perdre le financement fédéral, on est quand même indépendant dans nos opérations là, on garde une certaine distance, mais ce qui est la beauté dans les réformes qu'on a proposées dans la recherche, c'est qu'elles sont complètement applicables dans le sens de la loi canadienne sur la santé. Il y en a aucune qui va à l'encontre de ces principes-là. Encore une fois, on garde l'universalité, donc ça n'enfreint pas cette règle-là. Il y en a 5 principes à respecter. Mais celle qu'on connaît le plus, c'est vraiment l'universalité.
Merci beaucoup, Mme Chat. Très intéressant.
Ça me fait plaisir. Merci à vous.
Merci. Au revoir. Marie-Alélie Chat, qui est économiste à l'Institut économique de Montréal. Tout ça fait du sens. Mais écoute, attention, Joe, t'as nommé le mot entrepreneur. Puis Mme Chat aussi, elle a nommé le mot entrepreneur. Faites attention, là. Oh! C'est un gros changement de mentalité. Mais en même temps, tu sais, là, je sens que la discussion s'intensifie là-dessus au Québec. Pour une raison bien simple, c'est qu'il n'y a plus personne qui veut revivre ce qu'on a vécu, un système de santé mis à genoux par un variant. Puis variant, pas variant, je veux dire, faut améliorer le système de santé, il était déjà fragile. Et on n'a pas le choix, c'est même pas un choix de se poser la question. Puis à date, je vous dirais que ça revient souvent, ça, de différents observateurs, différentes études, de parler de la Suède, du Royaume-Uni, de certains pays européens qui ont pas nécessairement le modèle américain. En fait, c'est pas le modèle américain, c'est un modèle mixte. Privé, public, oui, des entrepreneurs qui investissent dans les hôpitaux, qui opèrent les hôpitaux, mais c'est un système public aussi. Il y a comme une compétition et l'universalité, elle est respectée puis elle est assurée. C'est beaucoup ça qui revient, je trouve, dans les discussions. Je sais pas si c'est ça que le gouvernement a en tête. Puis en passant, s'il y en a qui ont des meilleures solutions, 25-226-418-670-9330, jérôme.landry@cogecomedia.com, jonathan.trudeau@cogecomedia.com. Moi, je cherche, je veux dire. Je veux pas juste vous dire, c'est ça la solution, puis il n'y en a pas d'autre. Mais à date, je vous dirais que depuis que la discussion s'est intensifiée là-dessus, ça revient souvent, ce genre de modèle-là au Québec.
Une chose est certaine, c'est qu'avec ce qu'on a vécu depuis 2 ans, on ne devrait pas être fermé à analyser aucune option.
Non.
Aucune option. Tu sais, j'imagine certains tenants d'une idéologie là, de gauche comme Québec solidaire qui, dès que tu vas dire privé, là,
font le syncope. Fais attention.
Je m'excuse, mais même si tu sais, je suis prêt à accepter que c'est peut-être qu'on va nous faire la démonstration que c'est pas la meilleure solution, peut-être, mais on doit revirer chaque caillou.
Oui.
On n'a pas le choix, on est obligé, avec ce qu'on a vécu depuis 2 ans, là, revirer chaque caillou, étudier chaque possibilité pour être certain qu'on n'échappe pas de bonnes idées, mettons.
Exact. OK, on doit s'arrêter. Il est 2h01. Bon après-midi. Bienvenue dans Trudeau-Landry. La suite au retour. Radio qui fait parler.